France Musique. Tour de chant, Martin Péné.
Aujourd'hui, Anna Karina, chanteuse, première partie. Anna Karina est une légende du cinéma, en particulier de la Nouvelle Vague, qu'elle a épousée en la personne de Jean-Luc Godard. Sur les 65 films qu'elle a tournés entre 1960 et 2008, chacun de nous a quelques œuvres fétiches, marquées par son phrasé singulier, sa longue silhouette d'éternelle adolescente, ses yeux bleus et son sourire contagieux. Née à Copenhague il y a 80 ans, en septembre 1940, et disparue en décembre 2019, elle laisse à ceux qui ont eu la chance de la côtoyer le souvenir d'un être chaleureux et attachant. Se définissant comme une aventurière, cette Danoise naturalisée française a eu un destin hors du commun. Fascinée par le monde artistique, elle a fait ses premiers pas de chanteuse et même d'actrice au Danemark dès l'âge de 14 ans. Mais elle a fini par fuir son enfance chaotique, avec une mère sans affection et un beau-père violent, ne voulant se souvenir que de son grand-père qu'elle adorait et de son premier beau-père, attiré lui aussi par la musique. À 17 ans et demi, elle quitte donc définitivement Copenhague pour Paris, comme l'illustre cette chanson de Philippe Catherine, tirée de l'album Une histoire d'amour, sorti au printemps 2000.
Paris, j'ai toujours adoré. Cette France, la culture française. Mais c'était pas du tout snob hein, chez moi, c'était vraiment, vraiment par amour.
Un amour impossible. Copenhague. Comme les temps immobiles. Comme si nous n'étions jamais revenus. De notre paradis perdu.
Il paraît que je chante depuis vraiment très 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 petite. Et c'est vrai que je faisais toujours le spectacle pour les anniversaires et pour les fêtes chez mon grand-père. Et à l'école aussi, bien sûr. Et non, à vrai dire, c'est mon premier beau-père. Il m'achetait tous les disques. Il se prenait un peu pour un chanteur d'opéra raté, quoi. Il croyait qu'il avait raté une carrière. Et donc, il m'achetait des disques de Charles Trenet, d'Edith Piaf, voire Fréhel, Marie Dubas. Et également des disques style comédie américaine. Donc Judy Garland et Doris Day.
Vous parliez pas français quand vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 18 ans?
Non, je parlais anglais, oui.
Ces chansons-là, c'était aussi une façon d'apprendre la langue, d'avoir Piaf en tête?
Mais tout à fait, tout à fait. Il y avait les chansons et puis il y avait aussi le cinéma. Donc j'allais voir un film, par exemple avec Jean Gabin. Et après, un film avec Gérard Philippe. Et j'ai fini par comprendre que quand Gabin disait « ça va la vieille », ça voulait dire la même chose que quand Gérard Philippe disait « bonsoir madame », voilà. Ou « bonjour madame », voilà. Parce qu'à l'époque, on pouvait rester toute la journée pour le même prix, quoi. Pour 10 balles, comme on disait à l'époque, quoi. Donc je restais de midi à minuit. Et je voyais le même film, et donc je finissais par comprendre. Et après, j'ai pris des cours, bien sûr.
Comme elle l'expliquait à Rebecca Manzoni sur France Inter en 2005, Anne Karine Bayer n'a pas encore 18 ans lorsqu'elle arrive à Paris, avec peu de perspectives, mais rêvant de cinéma. Elle traîne au Quartier Latin, où elle se sent bien, elle survit en dessinant sur les trottoirs, puis a l'opportunité de faire des photos de mode destinées au magazine Jour de France. Munie de quelques tirages, elle se présente à la rédaction de Elle, dirigée par Hélène Nazareff, et aura l'honneur d'en faire la couverture. Dans l'assistance se trouve l'impressionnante Coco Chanel, alors âgée de 75 ans, qui lui demande son nom et lui déclare avec autorité que pour faire du cinéma, elle devra s'appeler Anna Karina. Familière de la culture russe, la couturière y voit bien sûr une proximité avec Anna Karénine, l'héroïne de Léon Tolstoï.
Souviens-toi de moi, Anne Karine, souviens-toi de moi, petite fille viking. C'est ta vie que j'ai vécu comme un malentendu, comme un malentendu. Souviens-toi de moi, petite fille, malgré toi, retenue dans les îles, perdue dans les embruns, guettant en vain un signe de vie.
Désormais parisienne, Anna se tisse un réseau de relations et tourne des films publicitaires pour des marques de savon. Elle est alors repérée par Jean-Luc Godard, cinéaste débutant, qui prépare À bout de souffle, mais elle refuse d'emblée de devoir se déshabiller devant la caméra. Un peu plus tard, Godard la relance pour un nouveau film, Le Petit Soldat, qui cette fois se veut politique puisqu'il aborde la guerre d'Algérie. Anna accepte, mais elle est encore mineure. Alors pour signer son contrat, il faut faire venir sa mère du Danemark. Le tournage a lieu à Genève et c'est à ce moment qu'une idylle se noue entre Godard et Karina qui débouchera l'année suivante sur un mariage. Cela n'a pas empêché Anna d'aller tourner son second long métrage avec Michel Deville, Ce soir ou jamais. La censure retardera pendant 2 ans la sortie du Petit Soldat, alors Godard lui fait faire un nouveau film, nettement plus joyeux, Une femme est une femme, sorte de comédie musicale qui sortira en septembre 61 et qui amènera Anna à chanter pour la première fois à l'écran. Impressionnée par le film Lola de son camarade Jacques Demy, Jean-Luc a également fait appel pour la musique à Michel Legrand. La jeune femme, qui n'a pas encore perdu son accent scandinave, y fredonne un air en forme d'autoportrait dont les paroles sont écrites par Godard lui-même et ce sera d'ailleurs son unique chanson.
On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai des très jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de Baptiste.
Je crois que Jean-Luc a inventé une manière de faire, une manière de dire les choses qui a beaucoup influencé plein de gens et plein de choses dans la vie, une manière de faire, une manière de voir la vie et de faire les choses.
Pour vous, Jean-Luc Godard, c'est un grand cinéaste.
Ah oui, immense. En plus, il m'a tout appris. Parce que bon, c'était mon mari, c'était mon frère, c'était... Il m'a appris à lire, à écrire... et puis il m'a fait faire des choses quand même magnifiques. Et c'est vrai que bon, on se rendait pas compte à l'époque, parce que à l'époque on était peut-être plus simple. On avait juste envie de jouer, de faire les choses. C'est vrai qu'il nous a apporté énormément à tout point de vue, parce que il a complètement changé la loi du cinéma. Quand on avait travaillé avec Jean-Luc, c'était plus facile de travailler avec les autres après, parce que c'était un cinéma beaucoup plus classique. C'était toujours le chant contre chant, on arrivait, on s'asseyait, on parlait, et puis comme je vous parle maintenant, alors qu'avec Jean-Luc il fallait tout faire en même temps, boire, fumer, courir, claquer les portes, sauter un mur, enfin faire plein de trucs. Et c'était plus vivant et plus naturel, mais c'était plus difficile à faire aussi. De plus, comme il avait rarement un scénario, on avait toujours une espèce de... Bon, il nous racontait toujours les personnages, mais il changeait souvent au fur et à mesure qu'il tournait. Mais il nous demandait de faire des choses assez difficiles. De plus, on avait le texte au dernier moment.
Anna Karina répondait aux questions de Sylvie Nicolet sur Radio Bleu en 1996. Le film Une femme est une femme a permis à l'actrice de connaître Jean-Paul Belmondo et Jean-Claude Brialy qui vont beaucoup marquer son parcours par la suite. À partir de 1961, Anna enchaîne les tournages, notamment avec Agnès Varda pour Cléo de 5 à 7, Jean-Luc Godard pour Vivre sa vie et Chris Marker pour Le Joli Mai. En 1963, Jacques Baratier l'engage pour un film sur le milieu du cinéma réunissant une pléiade d'acteurs, Dragée au poivre, dont le scénario inclut plusieurs chansons d'un artiste au talent multiple, Serge Rezvani. peintre, romancier et poète. Il a signé sous le nom de Cyrus Bassiac de nombreuses chansons tendres ou ironiques qui au départ n'étaient pas destinées à une diffusion publique. C'est presque par hasard qu'elles sont sorties de son groupe d'amis. François Truffaut a choisi Le Tourbillon pour son film Jules et Jim, tourné en 61, puis Jeanne Moreau en a pris une douzaine d'autres pour un album qui paraît au printemps 63 chez Jacques Canetti. Celles qui figurent dans le film Dragée au poivre ont été choisies surtout dans le registre truculent. Le générique réunit notamment Jacques Dufilho, Guy Bedos, Sophie Daumier, Belmondo, Simone Signoret, Francis Blanche, Claude Brasseur et Anna Karina, qui entre-temps a fait des progrès en français.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle a pas d'homme. Un homme sans femme, il reste en panne.
Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir.
Les hommes ils aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Au paradis y'a plus de flammes, au paradis sont les hommes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre.
Elles rêvent à la fermeture éclair, qu'elles remontent à tenir si fières. Elles rêvent des divans profonds entrevus dans la garçonnière. Mon Dieu, pourquoi fiche de manière. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour tordre son mouchoir.
Cette première rencontre d'Anna Karina avec les chansons de Serge Rezvani aura bientôt de belles suites. Mais pour l'heure, en 1964, l'actrice tourne dans La Ronde de Roger Vadim, Bande à part de Jean-Luc Godard, puis dans Le voleur du Tibidabo, une fable sociale réalisée à Barcelone par le comédien Maurice Ronet, qui sortira en février 65. Elle y entonne une mélodie aux accents lyriques composée par Antoine Duhamel, qui fut l'élève d'Olivier Messiaen, sur des paroles du comédien, écrivain et dramaturge Remo Forlani.
Tout en haut du Tibidabo, la fête est dure tout au long de l'année. À la fête, on perd la tête, mais moi je n'ai pas besoin d'avoir de tête. Je m'en moque puisque j'ai un cœur. La vie est magnifique, le ciel toujours bleu. Sois pas mélancolique, la vie est un jeu. J'aime les derniers pas pour l'amour de là. Et toi, je t'aimerais si tu.
Le chant, Martin Pennet, France Musique.
Sans être une chanteuse professionnelle, Anna Karina chante à l'instinct. Sa rencontre avec Antoine Duhamel se poursuit en 1965 par des émissions de télévision produites par Michel Arnaud, Ni figue ni raisin, réalisées par Jacques Rosier ou Pierre Koralnik. Elle y chante notamment C'est fou les hommes, à la manière de Marilyn Monroe. L'actrice permet à Antoine Duhamel de rencontrer Jean-Luc Godard, qui lui commande une chanson pour son prochain film, Pierrot le fou, dont les vedettes seront Anna Karina et Jean-Paul Belmondo. Le compositeur travaille à nouveau avec Remo Forlani, mais le résultat, intitulé Micmac, ne séduit guère Godard, qui abandonne son idée et se tourne alors vers Serge Rezvani, dont il a aimé les chansons très originales chantées par Jeanne Moreau. La rencontre se produit de façon inopinée, en plein tournage du film, dans la maison que Rezvani habite alors dans le Var, avec sa femme Lula, comme il me l'a raconté sur France Culture en 2003, en compagnie d'Anna Karina.
Maline de chance, Maline de chance. Louise, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Oh, ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche, ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Serge Rasvani, outre Jeanne Moreau et ses albums, il y a eu en 1965 Pierrot le Fou, donc de Jean-Luc Godard,
Anna
et
Carina,
avec Anna Karina qui chantait deux chansons.
Oui.
Est-ce que vous connaissiez bien Godard avant?
Pas du tout. J'aimais beaucoup ce que. J'avais envie de le connaître. Puis un matin, à 7h du matin, il y a une voiture américaine qui est montée, la voiture d'ailleurs qui a joué dans Pierrot le Fou. Et puis j'ai vu débarquer Godard. Il était avec son assistant et il venait faire des repérages. À Porcron, il avait ouvert la radio, il y avait une chanson de moi, il a dit à son assistant, tiens, j'aimerais bien avoir une chanson de ce type-là dans mon film. Et l'assistant lui a dit, tourne la première à droite, et puis, parce qu'il me connaissait. Et Godard n'a pas tourné. Et puis, ils étaient un peu plus loin, il y avait encore un carrefour, il a dit, là, tu peux encore tourner, tu peux aller chez Rasvani. Il a tourné, ils sont arrivés ici. Et moi, j'étais très content parce que j'avais envie de le rencontrer. Et puis, il m'a dit, j'aimerais bien avoir des chansons de vous. J'ai dit, ben oui, vous pouvez m'en chanter. J'avais sur le magnétophone deux chansons récentes. La ligne de chance, et puis jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. J'ai passé, il m'a dit, ben c'est celle-là, c'est très bien. J'ai dit, vous êtes très paresseux. J'ai dit, bon, mais il les a appris pour lui, voilà, pour le film. Et donc, non, Godard, on a été sur le tournage souvent, je l'ai vu, il voulait que je chante même la partition masculine.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Ma ligne de chance, donc dans le film, est chantée par Anna Karina et Jean-Paul Belmondo, qui chante comme il peut.
Il faut, bien sûr. Alors, on a été répété. Il voulait que je l'enregistre pour le disque, et puis finalement, j'ai pas voulu.
Donc, Ma ligne de chance, c'est une chanson qui est un peu légère, amusante. En revanche, Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Là, on touche à des choses beaucoup plus profondes.
Voilà, pour moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, et que Godard a mis bizarrement. On voit Anna Karina qui balaye. Qui fait le ménage. Disons pour lui, voilà la vision qu'il a eue de cette chanson aussi, qui m'a paru bizarre un petit peu.
Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson?
C'est ma chanson la plus philosophique. C'est ma philosophie de l'amour. Je pense qu'on ne peut pas s'engager, ne pas plus s'engager en politique qu'en amour. Et les gens qui font des serments, dire je t'aimerai toujours, c'est presque se mettre une chaîne autour du cou, c'est affreux.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours. Oh mon amour, jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient de se mêler.
Chez Passiac, à chaque fois qu'il écrit des textes, c'est vraiment très proche des gens et chacun peut retrouve quelque chose qui le concerne profondément. Par rapport à Pierrot le Fou, moi j'ai chanté comme ça, j'ai chanté dans le film. Je ne sais pas si à l'époque, parce que j'étais très très jeune, je me suis tout à fait rendu compte de la poids et de l'importance des paroles de cette chanson. Parce que bon, quand on est très jeune, on est un peu tête en l'air, c'est dire. Mais je sentais bien que c'était très très beau. Et j'aimais beaucoup cette chanson, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle existe encore aujourd'hui, et qu'ensuite, je l'ai chantée en concert avec Philippe Catherine, et qu'on a toujours eu beaucoup, beaucoup de succès quand on a chanté cette chanson, parce qu'il y a quelque chose qui passe, il se passe un truc entre cette chanson et le public qui comprend très bien le message.
Nos sentiments nous ont liés bien malgré nous, sans y penser à tout jamais.
Après le tournage du film, Anna Karina enregistrera pour un disque 45 tours sorti chez Barclay la version studio que nous venons d'entendre, plus aboutie que son interprétation dans le film. Après avoir vu Pierrot le Fou, sorti en novembre 65, le réalisateur Pierre Koralnik a un projet de comédie musicale pour la télévision, toujours produite par Michel Arnaud, construite autour de la vedette Anna Karina et de Jean-Claude Brialy. L'œuvre est intitulée Anna, comme pour mieux brouiller les pistes entre fiction et réalité. Au départ, le réalisateur prévoit de faire écrire les chansons par Antoine Duhamel et Jean-Loup Dabadie, déjà chargés des dialogues. Mais les choses se passeront différemment, car Serge Gainsbourg loge à cette époque chez Koralnik et lance un défi au réalisateur qui se prend au jeu et lui confie finalement l'ensemble de la partition. Serge en dit quelques mots dans l'émission Rendez-vous à 5h au micro de Sophie Dumoulin.
Puisqu'on est au mois de janvier 1966, dites-moi ce qui compte pour vous, ce que vous souhaiteriez.
Je suis en train d'écrire une comédie musicale pour Anna Karina et Brialy. C'est l'histoire d'un publiciste qui aperçoit la photo d'une jeune femme. Et il en tombe éperdument amoureux. Elle est à ses côtés, mais elle a des lunettes, il ne la reconnaît pas, ils ne se trouveront jamais.
Ils vont chanter tous les deux, Karina
oui.
et Brialy.
Oui. Mmh. Elle a une très jolie voix.
Ah bon? Et lui?
Lui, ça va, très bien.
Lui, ça va aussi. Ils vont danser?
Ah, bien sûr.
Et cette comédie musicale, vous pensez qu'elle va être jouée bientôt? Elle va être montée bientôt?
Oui, oui.
Qui la met en scène?
Pierre Koralnik.
Incurable. Vous êtes au courant?
Oh, son histoire de photos. Il est fou. Je trouve ça complètement idiot.
Elle est quand même pas mal, non?
Pas mal.
Vous êtes amoureuse de lui?
Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais ça va pas, non?
Rien, je disais ça comme ça. Faut pas vous fâcher. Simplement travailler avec un type toute la journée, ça peut donner des idées, c'est normal.
Moi, je suis anormale, si c'est ça que vous voulez dire.
Pas commode, hein? Je trouve marrante. Vous êtes sûrement une affaire, mais vous ne devez pas le savoir.
Quelle prétention!
Oh, vous n'avez pas compris. Je cherchais pas à me placer.
Vous avez ce qu'il vous faut?
Exact.
Elle est jolie?
Elle sent très jolie.
Oh là là, quel salaud!
Allez, salut poupée.
Tournée au printemps 66, Anna est le premier film en couleur réalisé pour la télévision française qui sera diffusé le 13 janvier 1967. Outre le couple vedette Karina Brialy, la distribution fait appel à d'autres personnalités du monde musical, Eddie Mitchell et la Britannique Marianne Faithfull. Anna y interprète tout de même la moitié des titres, parfois en duo avec Jean-Claude Brialy. Cette fois, consciente de l'enjeu, Anna a pris des cours de chant avec une cantatrice. Sa voix a ainsi gagné en puissance et en musicalité. C'était nécessaire pour entrer dans la musique de Serge Gainsbourg, différente des compositeurs avec qui elle a précédemment travaillé, car elle est plus proche du style pop, ici orchestré par le talentueux Michel Colombier. Dans les chansons de cette comédie musicale, Serge insuffle des élans de sentiment et un appétit de vivre jusqu'alors inusité chez lui. Certains morceaux, comme De plus en plus, De moins en moins, en duo avec Jean-Claude Brialy, ou bien Roller Girl, annoncent le Je t'aime moi non plus ou le Harley Davidson, composé l'année suivante par Gainsbourg pour Brigitte Bardot. Dans cette scène assez érotique, Anna se déchaîne, tourbillonne et chante.
Je suis la fille que l'on colle sur les Harley Davidson, les BMW, les camions, c'est Stan. Je suis la Roller Girl.
Ce rôle de vedette dans une comédie musicale, qu'elle considère comme un cadeau extraordinaire, permet à Anna Karina de réaliser un rêve de petite fille, mais aussi de trouver un nouveau Pygmalion après avoir récemment divorcé de Jean-Luc Godard. Avec elle, Serge Gainsbourg se montre timide, drôle, élégant et très professionnel. Le tournage dure 4 semaines, donnant lieu à un reportage pour l'émission cinéma de la télévision en avril 1966.
Elle chante pas comme tout le monde, Anna.
Ah non, elle a sa personnalité.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Elle a des moyens vocaux, ce qui est très rare. Et puis, beaucoup de choses.
Quoi ?
Spécifiques. Quoi, le sens de l'humour, ça c'est très rare. Et puis, sensualité. Ah, non, une gamme très étendue de moyens, ça c'est pas mal.
D'ailleurs, vous faites quelque chose pour elle que vous n'avez jamais fait pour personne d'autre, je crois. D'autres titres.
Oui. Et je suis très mauvais coucheur. Si je fais 12 titres, c'est que ça m'a accroché.
Et 33 ans plus tard, Anna répondra à Caroline Osterman sur Radio Bleu.
Comment il était justement avec vous, parce que vous chantez en duo?
Ben, il était absolument génial. C'est-à-dire, je crois que j'ai rarement ri autant avec un homme, je veux dire, de ma vie, qu'avec Serge. On a été très très amis, parce qu'on a répété très 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 longtemps. On se voyait tous les jours et on avait vraiment une complicité. C'était assez profond tout ça. On était, contrairement à ce que tout le monde pense, on n'était pas du tout amants. Je vous le dis franchement.
C'était l'époque où on aimait les ragots, oui.
Oui, oui, ça c'est sûr.
On les aime toujours d'ailleurs.
Ça, c'est certain. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de...
De complicité,
beaucoup de
entre
complicité
vous,
et, oui. Et tendresse, peut-être, une forme de tendresse entre nous. D'ailleurs, avant de mourir, il m'a appelé un très très peu très peu de temps avant sa mort. Et... Sinon, je le voyais comme ça de temps en temps. Et puis, il est mort, quoi.
Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous.
Un album 33 tours des chansons du film sera enregistré dans la foulée chez Philips, qui se vendra peu, devenant une vraie pièce de collection. Mais il assoit l'image d'Anna Karina comme chanteuse à part entière. Et le titre qui se détache de cet album, réédité par la suite sur diverses compilations, c'est bien sûr « Sous le soleil exactement » qui deviendra la chanson fétiche d'Anna.
Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts.
Ce téléfilm à la mise en scène audacieuse, inventive, décalée, assez violente par certains aspects, suscitera des réactions contrastées, provoquant l'enthousiasme ou le rejet, et ne sera jamais rediffusé. Une chanson en particulier, G.I. Joe, tu vas mourir, parodie de marche militaire qui évoque la guerre au Vietnam, sera même censurée sur les ondes. Nous retrouverons Anna Karina la semaine prochaine pour la fin de ce portrait en chanson. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Antoine Viossa à la technique, Olivier Guérin à la réalisation, Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
à réécouter sur francemusique.fr.